France Info.
Bonsoir. Le Premier ministre fixe sa feuille de route, mais sera-t-il toujours là dans un mois pour la mettre en œuvre? Édouard Philippe veut aller vite, notamment sur la réforme du Code du travail, première priorité du quinquennat, attendue comme une loi El Khomri puissance 10. L'été s'annonce brûlant entre le gouvernement et les syndicats. Mais ce gouvernement sera-t-il toujours là, donc après les législatives? La campagne officielle commence demain et ce troisième tour de la présidentielle s'annonce une nouvelle fois très incertain. Pour évoquer cette actualité politique, et je vais y arriver, mais aussi le discours de Donald Trump en Arabie Saoudite ou la volonté des Suisses de tourner le dos progressivement au nucléaire, j'accueille ce soir Maude Guillaumin. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique, vous contribuez entre autres au site atlantico.fr. Gaëtan Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Chef de service politique au Parisien Magazine. Et Marie Danser, bonsoir.
Bonsoir.
Chef adjointe du service économie et sociale du journal La Croix. Merci à vous d'être avec nous dans Les Informés. Bienvenue. La réforme du Code du travail sera donc le premier grand test du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le nouveau président de la République en est persuadé, il faut s'y attaquer le plus vite possible. Pour faire baisser le chômage, il vaut donc aller très très vite. Son Premier ministre Édouard Philippe le dit dans une interview aujourd'hui au journal du dimanche. Il veut lancer les discussions dès que possible avec les syndicats. Il dit vouloir expliquer et enrichir cette réforme. Est-ce que le gouvernement, d'après vous, Marie Danser, craint une fronde syndicale pire que pour la loi El Khomri?
Alors en tout cas, le gouvernement est conscient que c'est une réforme à haut risque, puisqu'on a bien vu l'année dernière les oppositions que ça a suscité dans la rue. Il a entendu, en tout cas, il envoie le signal que il a entendu les demandes des syndicats d'être écoutés. Il va les recevoir. Édouard Philippe le dit dans l'interview au JDD. Il va les recevoir de manière bilatérale. Mais ensuite, il explique quand même que c'est lui qui, le gouvernement, qui prendra les décisions. Donc, voilà. On a d'un côté une ouverture au dialogue et puis ensuite il explique bien que ça ne peut pas traîner et qu'il faudra que la réforme aille vite.
Alors c'est vrai qu'il avait quand même été un petit peu sec pendant l'autre deux tours, puisque à Albi il avait bien dit ce n'est pas la CGT qui va présider. C'était quand même une manière de dire un petit peu que voilà, il s'était passé des choses au moment de la loi El Khomri et là les choses allaient se passer différemment. Maintenant on voit bien qu'il a plutôt de la chance pour l'instant, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais les différents patrons des syndicats ont été plutôt contents, à part la CGT justement de Philippe Martinez, de l'arrivée de Muriel Pénicaud, hein, qui était chez Business France.
Qui est la ministre du Travail.
Ministre du Travail, qui avait notamment été aux côtés de Martine Aubry quand elle-même était ministre du Travail. Donc ils disent que c'est plutôt positif. Maintenant, par exemple, Philippe Martinez de la CGT explique, attention, elle a quand même été à la tête des suppressions qu'il y a eu chez Danone, donc il faut se méfier. Mais pour l'instant, il y a quand même, je trouve, quelque chose de plutôt positif du côté des syndicats, pas de très agressif.
Oui, mais en même temps, c'est une position d'attente. C'est-à-dire qu'ils attendent de voir aussi d'abord ce que vont donner les législatives dans un mois, et puis surtout que le gouvernement dévoile un peu son programme, parce que sur la loi travail, ça reste quand même très très flou. On est obligé de se référer aujourd'hui au livre d'Emmanuel Macron, Révolution, dans lequel il esquissait quelques grandes lignes, et dans son programme, il y a aussi quelques lignes, mais tout ça reste très flou. On n'a pas de calendrier, on n'a pas de plan, et on sait déjà qu'il va vouloir gouverner par ordonnance. Donc, effectivement, il y a une position d'attente, je pense.
Nous allons parler du fond et des différentes dispositions voulues ou envisagées par Emmanuel Macron sur cette réforme du Code du travail. Écoutons d'abord la réaction de l'une des dirigeantes de la CGT, Catherine Perret. Elle estime qu'Emmanuel Macron, dans ce dossier, ne doit pas reproduire les erreurs qui ont été faites par le précédent gouvernement lors de l'examen de la loi El Khomri. Écoutez.
Il faut justement prendre le temps de la négociation pour aboutir à une bonne réforme. Or, c'est justement ce qui a manqué l'an dernier quand on a fait ce projet de loi à la va-vite, sans concertation avec les syndicats et avec, vous vous souvenez, les suites, les mobilisations fortes et au bout du compte, le 49-3.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, lui dit encore dans le journal du dimanche, toujours aujourd'hui, quand on veut dialoguer et qu'on est attaché au bien-être des salariés, on ne discute pas pendant les vacances. C'est vrai qu'il y a une volonté d'aller vite et en même temps, est-ce qu'on peut croire, Marie Dancer, à la réelle sincérité du gouvernement dans cette volonté de dialoguer avec les syndicats ?
Alors, comme il a été dit, ça dépendra aussi du résultat des législatives. Emmanuel Macron a été élu, évidemment, à la présidence, mais certains lui rappellent que beaucoup ont voté pour lui plutôt contre le FN. Donc, pour l'instant, on peut pas facilement dire que cette loi travail, elle suscite l'adhésion des Français. Donc, selon le résultat des législatives, si Emmanuel Macron a une majorité absolue, il pourra dire, écoutez, là, vraiment, le peuple français désire cette réforme et il faut que je la fasse vite parce que tout ça prend du temps. Ensuite, ce qui, à mon avis, est important de voir, c'est effectivement le contenu. On a deux grandes lignes en tête qui sont de rétablir des indemnités maximales et minimales en cas de licenciement et puis de redonner plus de place aux négociations de branches et d'entreprises. La première question, la barémisation des indemnités, la CFDT est contre. Et ça, c'était un casus belli, en fait.
Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, avait même parlé de verrue.
Voilà, de verrue. C'était clairement un casus belli il y a un an. Donc, c'est, à mon avis, cette disposition-là va être clivante. Est-ce qu'elle sera là ou pas? Et puis, comment Emmanuel Macron va mettre éventuellement en face pour faire passer la pilule, entre guillemets, des contreparties, puisque Emmanuel Macron parle de flexi-sécurité. Pour l'instant, les syndicats trouvent qu'il y a beaucoup de flexi et pas assez de sécurité. Donc, on va voir si, dans le même temps, Emmanuel Macron arrive à pousser des feux en termes de formation professionnelle, d'accompagnement des salariés. Tout ça, ça permettra éventuellement de passer une réforme plus ou moins rapidement.
Et c'est là que le dialogue va être important, justement, avec les syndicats, Maud Guillaume.
Alors, c'est sûr que ce sera, de toute manière, un test pour lui. Là où Philippe Martinez a un peu raison, c'est que, oui, en effet, il faut qu'il aille vite, parce qu'il sait que derrière, les choses iront très vite aussi. Il a vu ce que ça donnait avec Myriam El Khomri. Et de son côté, en effet, il se rend bien compte qu'il faut qu'il s'appuie sur une majorité de syndicats. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de bilatéralisme, mais vraiment qu'il essaye que les choses se passent bien un peu avec tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il veut les rencontrer, que pour l'instant, il a vraiment essayé d'avoir des mains tendues le plus possible.
Restez avec nous dans Les Informés. On continue ce débat juste après l'info à 20h10 avec Yasmina Adila qu'on accueille. Bonsoir Yasmina.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous. La lutte contre le terrorisme n'est pas une bataille entre civilisations. Promesse de Donald Trump. Le président américain a prononcé un discours sur l'islam depuis Riyad en Arabie Saoudite. Premier déplacement à l'étranger pour Donald Trump. Le dirigeant américain demande aux pays musulmans de ne pas laisser de refuge aux terroristes. La visite de Donald Trump a notamment été marquée par la signature de très gros contrats, 340 milliards d'euros d'accords signés entre les deux pays. Une vente de sous-marins au Brésil dans le collimateur de la justice française. Le parquet national financier enquête depuis l'automne dernier sur l'acquisition de 5 sous-marins par Rio. Un contrat de près de 7 milliards d'euros. Des pots de vin auraient été versés pour décrocher le contrat. Le constructeur DCNS affirme respecter les règles de droit partout dans le monde. Bruno Le Maire annonce des engagements pour GMES. Le ministre de l'économie annonce un accord entre l'équipementier automobile et ses deux principaux clients, PSA et Renault. L'entreprise de la souterraine dans la Creuse est menacée de liquidation judiciaire. Les deux constructeurs automobiles s'engagent à augmenter leurs commandes. Pour PSA, elles passeront de 10 à 12 millions d'euros, de 5 à 10 millions pour Renault. Pour Bruno Le Maire, cet accord devrait permettre de trouver un repreneur. Sébastien Ogier remporte pour la 5e fois le rallye du Portugal. Avec cette victoire, le Français conforte sa place de leader du championnat du monde des pilotes.
France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron.
Nous parlons de la réforme du Code du travail voulue très rapidement donc par Emmanuel Macron et par son gouvernement. Nous parlons de la volonté ou pas de dialoguer avec les syndicats. En tout cas, le Premier ministre Édouard Philippe répète encore aujourd'hui qu'il veut mettre tout le monde autour de la table très rapidement. Mais sur la volonté d'Emmanuel Macron de procéder par ordonnance, ça fait beaucoup parler, ça dérange beaucoup les syndicats. C'est vrai que le président de la République veut aller très vite pour que cette réforme porte ses fruits avant la fin du quinquennat. Mais on a vu avec la loi El Khomri que, avec le 49-3, parfois la précipitation peut causer beaucoup de tort. Gaëtan Morin, dans le domaine social.
Exactement. Et je pense qu'Emmanuel Macron en a pleinement conscience. C'est-à-dire que si vous vous souvenez bien, sur sa loi, qui était la loi sur la croissance, il avait pris soin, pendant tout le débat parlementaire, qui était un débat préliminaire, de discuter avec les députés et avec les représentations syndicales. Il avait pris soin de discuter pied à pied pendant des heures et des heures. Il était resté à l'Assemblée nationale tard le soir, vraiment même les députés de l'opposition reconnaissaient que rarement un ministre s'était mouillé à ce point dans un débat. Et donc je pense que là encore, ce tour préalable de discussion avec les syndicats sera respecté. La seule chose, c'est qu'après, ça va être un peu du donnant-donnant. Est-ce que pour autant les syndicats vont vraiment s'y retrouver ? Ça reste à voir.
Est-ce que réécrire le code du travail, pour revenir aussi au fond de cette réforme, vous disiez tout à l'heure, Gaëtan Morin, qu'on ne sait pas encore très précisément ce que veut mettre Emmanuel Macron à l'intérieur de cette réforme. Est-ce que réécrire le code du travail en quelques mois, Marie Dansert, c'est possible, tout simplement ?
Alors là, ce serait pas réécrire tout le code du travail. Simplement, je parlais notamment de ces deux points sur la barémisation des indemnités et sur la place de la négociation des entreprises et des branches dans la négociation. Donc on aurait au moins, en tout cas dans son intention, ces deux points-là. Il peut, enfin théoriquement évidemment, vous pouvez le faire. Pour lui, c'est vraiment un test d'autorité. Il ne peut plus vraiment reculer, en tout cas sur le principe de cette réforme, parce que ce serait ruiner tout espoir de réforme dans le futur. Et puis, il faut aussi voir qu'il doit donner des gages à Bruxelles. Bruxelles attend de la France depuis plusieurs années qu'un certain nombre de réformes soient effectuées, notamment sur le marché du travail. Et puis, il a aussi, alors on parle beaucoup du dialogue social avec les syndicats, mais il y a le patronat qui attend aussi beaucoup derrière de cette réforme. Donc voilà, il a un peu ces différents acteurs à gérer et on verra encore une fois, je pense que le résultat de la législative, des élections législatives sera déterminant.
On va parler d'ailleurs, ce sera notre deuxième sujet de débat dans les informés ce soir, ces élections législatives justement avec la campagne officielle qui commence demain. Mais sur cette réforme, vous parlez des accords d'entreprise qui primeraient donc dans certains domaines sur le code du travail. Justement, c'est le cas avec la loi El Khomri sur le temps de travail, et avec cette réforme, ça pourrait être le cas sur les conditions de travail et sur les salaires. Est-ce que ça vous paraît explosif, Maud Guillaumin, quand on se souvient de ce qu'avait produit cette mesure, justement au moment de la loi El Khomri ?
Alors, ce qui est certain, c'est que la position des syndicats et quand même d'une grande partie de la population n'a pas changé par rapport à cela. Bien au contraire, on l'a bien vu d'ailleurs juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Dès le dimanche, il y avait des manifestations dans la rue, notamment pour ce qu'il allait faire sur la loi travail. Donc, en effet, il y a quand même des choses comme le plafonnement des prud'hommes. Ça, c'est vraiment quelque chose de sensible. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est vrai que cet accord de négociation dans l'entreprise, donc ce qui donne beaucoup plus de force à l'entreprise et ce qui éloigne le syndicat, forcément, ça peut ne pas plaire. Est-ce que, et surtout, les syndicats disent quelque chose qu'on peut quand même souligner, est-ce que c'est vraiment ce qui va changer les choses par rapport au retour à l'emploi ? Et eux estiment que non, que ça va juste permettre à l'entreprise d'avoir plus d'impact et de laisser moins de champ libre à ses salariés pour décider, pour essayer de prendre en main justement le destin au niveau de toute la législation du travail.
En tout cas, on devrait savoir assez rapidement ce qu'il y aura dans cette réforme du Code du travail dans les prochaines semaines, puisque le gouvernement, encore une fois, veut aller très vite, et Emmanuel Macron recevra les leaders syndicaux en tête-à-tête à l'Élysée à partir de mardi prochain. Donc tout cela va aller extrêmement vite et on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans les informés. Venons-en maintenant aux législatives. Vous en parliez, Marie Dansert, parce que c'est vrai que nous parlons de ce que veut faire Emmanuel Macron, de ce que veut faire le gouvernement, mais tout dépendra de l'issue de ces élections législatives, les 11 et 18 juin. La campagne officielle commence demain. Est-ce que La République En Marche d'Emmanuel Macron vous paraît en mesure, Gaëtan Morin, d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale ?
Alors, c'est tout l'objectif, et c'est d'ailleurs l'objectif de la composition de ce gouvernement, avec, il faut le noter, d'emblée, une très belle prise à droite, deux très belles prises à droite. Donc, effectivement,
Bruno Le Maire,
Gérald Darmanin et Édouard Philippe, aussi. Exactement. Après, il est sûr que ça a énormément fragilisé les Républicains, puisqu'aujourd'hui, on l'a vu encore ce week-end, il y avait un discours de François Baroin qui mène les législatives et on sent bien que c'est compliqué de répondre à ça. Ensuite, c'est quand même un pari, parce que ces législatives, c'est pas évident. Si vous regardez d'ailleurs dans les circonscriptions, par exemple, quelqu'un comme Bruno Le Maire, aujourd'hui, il est en campagne. Il a été investi par les Républicains. Oui, sauf qu'il est passé chez En Marche. Donc maintenant, il va porter l'étiquette En Marche. Mais du coup, les Républicains ont investi quelqu'un face à lui. C'est la circonscription de Debré, dans l'heure, du coup. Il n'est pas du tout dit qu'il gagne le 18 juin au soir, ni même le 11 juin qu'il soit qualifié pour le second tour. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Lui, il va démissionner du gouvernement. C'est quand même le ministre de l'économie aujourd'hui. Donc, si on regarde au cas par cas comme ça, en fait, il y a énormément de points d'interrogation.
Cette règle fixée par Emmanuel Macron, est-ce qu'elle vous paraît tenable de
contraindre
les ministres battus aux législatives de démissionner, Maud Guillaume?
Alors, j'avoue que cette règle, je ne la comprenais déjà pas avant. Elle s'est déjà appliquée plusieurs fois. On l'a vu notamment avec Juppé, sous Sarkozy et tout. Je pense vraiment que je ne comprends pas. On n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Eh bien, être député, ça n'a rien à voir avec être ministre. Et donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi, alors que c'est si difficile, on l'a vu, de former ce gouvernement, d'avoir quand même imposé cette règle. Je ne crois pas du tout que ça va favoriser et renforcer le gouvernement, loin de là. Si jamais, au contraire, ils avaient bien dissocié les choses, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. Je pense que si jamais, imaginez en effet ce que vous disiez, Gaëtan, que Bruno Le Maire perde, on change de ministre de l'économie, on perd une belle prise de droite. Voilà. Et alors, en plus, qu'est-ce que ça donne du côté de la majorité, avec qui il va devoir falloir, de toute manière, il n'y aura pas une majorité nette pour En Marche, c'est évident. Hein. Il va falloir faire des accords avec tout le monde. On voit bien comment ça se passe. Donc du coup, non, je pense vraiment que cette règle va vraiment les affaiblir. Je ne comprends pas pourquoi ils se la sont, appliquée alors que c'était pas utile.
Un ministre battu au suffrage universel perd tout de même en légitimité, Marie Dancer.
Oui, pour moi, c'est un pari, évidemment. Mais Emmanuel Macron nous a habitués au pari, donc on verra si la suite lui donne raison ou pas. Mais c'est une manière aussi de dire je n'accepte pas qu'un élu qui finalement se fait battre sur le terrain arrive au gouvernement. Donc c'est bon, une manière d'appeler à la majorité aussi.
Est-ce que c'est pas dangereux pour quelqu'un qui avait jamais été élu avant d'être président de la République?
C'est un pari.
Franchement, je pense que c'est un pari qui est un peu dangereux.
On continue de parler de ces élections législatives à venir, c'est dans 3 semaines et début de la campagne officielle. Donc demain, restez avec nous dans Les Informés, il est 20h20. Voici les dernières infos avec Yasmina Adila.
PSA et Renault s'engagent à augmenter leurs commandes, objectif sauver leurs sous-traitants GMS. Le site basé dans la Creuse est menacé de fermeture. Les commandes de PSA passeront de 10 à 12 millions d'euros, celles de Renault de 5 à 10 millions. L'accord a été annoncé par Bruno Le Maire. Pour le ministre de l'Économie, cette entente pourrait permettre de trouver un repreneur. Donald Trump appelle à l'unité face au terrorisme. Le président américain a prononcé un discours sur l'islam en Arabie Saoudite. Il veut une union face à l'extrémisme. Et il dit notamment que si nous sommes unis, nous ne pourrons pas échouer. Donald Trump qui a également attaqué l'Iran, qui l'accuse de ne financer le terrorisme. Le dirigeant américain a appelé tous les pays à isoler l'Iran. L'Iran où Ebrahim Raisi dénonce des infractions durant l'élection présidentielle. Le candidat battu réclame l'arbitrage du Conseil des gardiens de la Constitution, institution qui supervise le scrutin. Ebrahim Raisi a été largement battu hier par le candidat réformateur Hassan Rouhani avec 57% des suffrages. Les Suisses pour la sortie du nucléaire, ils étaient appelés à voter aujourd'hui et d'après les premières estimations, 58% des électeurs se sont prononcés pour favoriser les énergies renouvelables. Ce texte prévoit une transition énergétique sur plusieurs dizaines d'années. Agen et Oyonnax montent en top 14 de rugby. Les Agenais remportent la finale d'accession face à Montauban 41-20. Une montée un an après avoir été rétrogradé en Pro D2. Oyonnax est champion de Pro D2 et donc qualifié d'office.
France Info. 20h-21h, les informés, Simon Le Baron.
C'est un peu la bataille de la cohabitation qu'ont lancé hier les Républicains à Paris, à 3 semaines des législatives. La droite espère obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, malgré la défaite de François Fillon lors de l'élection présidentielle. Écoutez le chef de file de cette campagne des législatives du côté des Républicains, François Baroin, dans son discours donc hier en meeting au Bois de Vincennes à Paris.
Le mouvement En Marche n'a pas recomposé la gauche et la droite. En Marche s'est substitué pour l'essentiel à l'ancien Parti Socialiste. En Marche C'est une sorte de pavillon de complaisance qui recouvre toutes sortes de marchandises. On y trouve du socialisme de contrebande et les éternels revenants des aventures Bayrou. La devanture a changé, le fonds de commerce est resté le même, mais les électeurs, eux, les électeurs, ne seront pas dupes. Le renouvellement, mes chers amis, ça n'est pas cela. Le renouvellement, il va se faire dans la clarté de nos convictions, dans la force de nos idées, dans la qualité de nos candidats. 60% de nos candidats se présentent pour la première fois à une élection.
François Bayrou, François Baroin parle justement des proches de François Bayrou et de François Bayrou lui-même entré au gouvernement. Il parle des socialistes, mais il oublie les membres des Républicains dont on parlait tout à l'heure, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gaëtan Morin. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, le casting gouvernemental a affaibli la concurrence.
Mais il y a une autre difficulté en fait. Il y a quand même 20 candidats aux législatives investis par les Républicains qui n'ont pas de concurrent La République En Marche face à eux. On pense à Thierry Solaire, on pense à Nathalie Kosciusko-Morizet, à Yves Jégo. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la question se pose, et au sein même des Républicains, ils ne savent pas aujourd'hui y répondre. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là vont basculer au lendemain des législatives sous l'étiquette La République En Marche? Et auquel cas, ça donnera une majorité un peu plus forte à Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils vont rester dans le giron, les Républicains? En fait, franchement, la situation est hyper confuse. Et je pense que pour les électeurs sur le terrain, c'est très compliqué aujourd'hui de s'y retrouver.
Vous parlez de confusion. C'est vrai qu'on l'a bien vu au sortir de l'élection présidentielle. Le paysage politique est divisé en quatre, avec La République En Marche, Les Républicains, le FN et La France Insoumise. Est-ce qu'on peut retrouver cette nouvelle composition sur les bancs de l'Assemblée nationale, Marie Dansert?
Pour moi, le paysage, il est vraiment très émietté et presque plus que ce que vous venez de dire, parce que on a maintenant Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec le PCF sur le terrain. Donc vous allez avoir au moins, dans un certain nombre de circonscriptions, deux candidatures d'extrême-gauche. Le PS est crédité de 6% des voix. Et effectivement, la partie est loin d'être gagnée pour les Républicains. Alors Gaëtan a mentionné les fissures. Et puis, cette image de François Baroin parlant de la cohérence de ses idées, de son programme, les électeurs auront probablement du mal à la retrouver parce que le programme de François Fillon a été complètement raboté, notamment sur la suppression du nombre de fonctionnaires, sur les économies dans les dépenses publiques. Donc c'est un petit peu compliqué de dire nous on sait où on est cohérent, et en même temps on raye d'un trait de plume un grand nombre de dispositions qui étaient très marquantes pour François Fillon. Et le PS en fait fait à peu près la même chose en abandonnant le revenu universel. Donc vraiment le paysage j'ai éclaté, et le pari d'Emmanuel Macron a peut-être quand même des chances d'aboutir.
Maud Guillaumin, pourtant tout à l'heure vous disiez que vous voyez mal La République En Marche obtenir une majorité claire à l'Assemblée.
Ah non, je disais que je trouvais que c'était dangereux justement, alors que c'était difficile de former un gouvernement, leur mettre ce challenge de se présenter aux législatives. Ça ne veut pas dire que La République En Marche ne peut pas justement essayer d'attirer évidemment des voix, et je crois qu'il y a quand même parfois, dans les gens qui ont voté Macron là au deuxième tour, quand on discute un peu, il y a des gens qui disent, au fond, on a voté pour lui, peut-être parfois pas vraiment parce qu'on était à fond avec lui, mais aujourd'hui, on lui laisse une chance. Le côté positif, je pense qu'il peut essayer de surfer dessus un petit peu. Et là où, par exemple, les Républicains sont étonnants, c'est que, par exemple, faire un seul meeting de campagne là à Vincennes.
C'était le seul meeting national.
Ce sera le seul, et ça prouve déjà qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Alors certes, ils ne le sont pas, mais je pense que c'est une mauvaise dynamique à montrer justement aux électeurs. Et entre deux électeurs, qui hésitent. Pourquoi pas, si jamais on n'est pas on ne connaît pas par exemple son nouveau candidat des Républicains, puisque c'est plein de nouveaux. Mais entre deux nouveaux, pourquoi pas choisir celui d'Emmanuel Macron du coup? Puisqu'en effet, quand on a voté sincèrement pour François Fillon, on ne se retrouve plus dans le programme, puisqu'en effet, comme vous le disiez, tout ça a changé. Et donc du coup, la donne n'est plus la même que quand ils ont voté au premier tour des présidentielles.
Et en plus, l'autre atout d'Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est que le FN lui-même semble entrer dans une phase de turbulence. Alors, ce sont des turbulences internes sur la ligne. Est-ce qu'on sort de l'euro ou est-ce qu'on ne sort pas de l'euro? Est-ce qu'on s'allie avec des personnalités comme Laurent Wauquiez? Tout ça fait que, il y a ces turbulences et qui peuvent perturber aussi l'électorat du FN, parce que finalement, on a dans l'électorat du FN ces deux tendances. Donc, même si Marine Le Pen a essayé de reporter ses discussions à l'après-législative, au congrès du Front National, n'empêche que ça commence à tirer dans tous les sens.
Le Front National qui est sorti malgré tout affaibli, malgré un score historique au second tour de l'élection présidentielle, mais l'entre-deux tours a été assez chaotique pour Marine Le Pen. Marine Le Pen qui va, le FN qui devrait payer cela aux législatives, d'après vous, Gaëtan Morin?
Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, en fait. C'est vrai que le FN aujourd'hui est en crise, c'est une crise larvée qui devrait exploser après les législatives. Il y a le départ de Marion Maréchal Le Pen, déjà, qui est quand même un coup dur. Il y a Marine Le Pen qui s'est sentie obligée cette fois-ci de dire qu'elle avait planté son débat de l'entre-deux-tours, donc elle a reconnu son erreur, c'est quand même dire que sa stratégie n'était pas la bonne. Donc il y a un certain nombre de sujets comme cela. La difficulté quand même, c'est que en ce qui concerne le Front National, il est très implanté dans les campagnes et du coup, je pense quand même que le vote Front National existera aux législatives.
Les informés de France Info continuent, on est ensemble jusqu'à 21h.
Infotrafic avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Vos conditions de circulation ce dimanche soir avec Laurent Borde. Laurent, vous nous signalez un accident dans l'heure.
Oui, un accident qui s'est produit sur l'autoroute A13 entre Paris et Caen, direction de Paris au niveau de Pont de l'Arche. Il y a 3 km de bouchons dans ce secteur. Et puis en région parisienne, il y a notamment un accident sur l'autoroute A4 en direction de Paris au niveau de Nogent. Soyez vigilants, 2 véhicules sont impliqués, la voie de gauche est neutralisée et en conséquence, vous mettez un quart d'heure pour aller de Logne jusqu'à Nogent.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
Quel temps demain, Jean-Michel Golinski?
La semaine qui arrive sera de plus en plus chaude et sèche, sauf ce lundi entre les Pyrénées et le Massif central où des ondées passagères vont se développer. Prévoyez également quelques averses en fin d'après-midi sur les sommets alpins et parfois un orage sur les Pyrénées, mais partout ailleurs, malgré les nuages de haute altitude, le soleil va largement l'emporter. À signaler tout de même en fin d'après-midi des entrées maritimes assez denses sur la pointe bretonne et les côtes aquitaines. Les températures déjà très confortables en fin de nuit seront proches d'une vingtaine de degrés l'après-midi sur les bords de la Manche. Il fera 23-27 du nord de la Loire à la frontière allemande et souvent 26 à 28 degrés dans la moitié sud. Les jours suivants, la chaleur va s'accentuer avec dès mercredi prochain des pointes à 30 degrés dans la partie nord et jusqu'à 34 de l'Aquitaine à la Provence.
Jean-Michel Golinski, la deuxième partie des informés dans 3 minutes. Pour l'instant, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info avec Emmanuel Langlois.
L'horizon s'éclaircit pour GMS, l'équipementier automobile de la Souterraine dans la Creuse, menacé de liquidation judiciaire. L'audience au tribunal de commerce de Poitiers est prévue mardi. La perspective pourrait finalement s'éloigner, en tout cas temporairement, grâce au coup de force de Bruno Le Maire et à la pression mise par Bercy. Le ministre de l'économie a obtenu de Renault et PSA qu'ils augmentent leurs commandes cette année. Guillaume Gaven.
Il s'y était engagé en recevant les syndicats à Bercy vendredi après-midi. Bruno Le Maire a donc passé une partie de son week-end au téléphone avec Carlos Ghosn, le patron de Renault, et Carlos Tavares, celui de PSA. Deux personnes qu'il connaît bien, dit-on dans son entourage. Suffisamment bien en tout cas pour réussir là où son prédécesseur avait échoué, les obliger à commander plus de pièces auprès de GMS, parce qu'après tout, l'État est encore au capital des constructeurs français et qu'à eux deux, ils représentent les deux tiers des commandes qui font vivre l'entreprise de la Souterraine. PSA Peugeot Citroën va donc porter ses commandes de 10 à 12 millions d'euros et Renault va carrément doubler les siennes, passant de 5 à 10 millions, ce qui au total permettra d'atteindre un chiffre d'affaires proche des 25 millions d'euros pour cette année. Voilà qui, selon Bercy, rend possible la continuité de l'exploitation et la poursuite des discussions sur la reprise de l'entreprise, à condition tout de même, et ça Bruno Le Maire l'avait déjà dit vendredi, à condition d'adapter son organisation pour gagner en compétitivité. En clair, si reprise il y a, tous les salariés ne pourront pas en être.
Guillaume Gaven et puis Donald Trump devant un parterre de dirigeants du monde arabo-musulman à Riyad, c'est l'image du jour. Dans son discours très attendu sur l'islam, le président américain les a appelés à lutter contre l'extrémisme et le terrorisme et à prendre leur part du fardeau. Il souhaite au passage un nouveau chapitre pour la paix au Proche-Orient. Pour Trump, la lutte contre le terrorisme n'est pas une bataille entre civilisations mais entre le bien et le mal. C'est une rupture en tout cas avec le ton de sa campagne durant laquelle le magnat de l'immobilier avait affirmé que l'islam détestait l'Amérique. La Corée du Nord a procédé à un nouvel essai de missiles balistiques, dernier en date d'une série de tirs qui ont suscité suscité des condamnations généralisées et la menace encore une fois d'un durcissement des sanctions contre Pyongyang. Sans surprise, le président turc Tayyip Erdogan réélu à la tête de l'AKP, le parti au pouvoir, après presque 3 ans d'absence. Il a pu revenir grâce à l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle taillée sur mesure et adopté par référendum, c'était le 16 avril dernier. 20h03 sur France Info, la suite et la fin des informés.
Les informés, Simon Le Baron.
Et nous sommes toujours avec Maud Guillaumin, journaliste politique, contributrice entre autres du site atlantico.fr, Gaëtane Morin, chef de service politique au Parisien Magazine, et Marie Danser, chef adjointe du service économie et sociale de La Croix. La campagne officielle des élections législatives commence donc demain. Je vous rappelle les dates des premiers et second tours. Ce sera le 11 juin pour le premier tour, le 18 pour le second tour. Et à 3 semaines de ce troisième tour de l'élection présidentielle, on parle des forces en présence et donc de cette élection particulièrement incertaine. On a évoqué il y a 5 minutes avec Gaëtane Morin le Front National qui sort tout de même affaibli, en tout cas qui pâtit d'une mauvaise dynamique après le second tour de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, Maud Guillaumin, au FN, on ne donne plus de chiffres de députés, plus d'objectifs.
Hein. Alors, en décembre, c'était une quarantaine. Là, on parle vaguement d'une quinzaine. Enfin, on le dit pas officiellement. On voit bien qu'on a peur également de ce qui peut se passer. Ce dont ils ont peur également... ils savent très bien que, mine de rien, qu'est-ce qu'ils avaient comme députés ? Ils avaient Marion Maréchal Le Pen et ils avaient Collard, qui était apparenté. Ça, c'était deux élections qui avaient été faites quand même dans des conditions très particulières parce que c'était deux triangulaires où les Républicains et le PS n'avaient pas voulu se retirer. Donc quand même, c'était vraiment des conditions très particulières. Est-ce qu'ils auront cette même chance aujourd'hui ? Les conditions sont compliquées. Alors c'est vrai que je pense qu'ils ont encore tout à fait des réserves de voix. Mais, par exemple, je pense que ce qui se passe avec Dupont-Aignan a aussi mis a un peu troublé le jeu. Vous avez vu, il y a deux personnes de chez Dupont-Aignan qui sont arrivées au FN, mais on voit bien que l'entente cordiale ou la belle amitié qu'il y avait au moment des deux tours, elle a quand même complètement explosé en vol.
Depuis, Nicolas Dupont-Aignan a dit que ce n'était pas une alliance.
Exactement.
C'était une volonté de mettre fin au
mondialisme.
Il y a un candidat FN face à lui.
Et il y a évidemment, il a mis des candidats lui-même partout, et il aura toujours des candidats FN face à lui en effet.
Alors, je dis mauvaise dynamique pour le Front National, c'est les mots que j'ai employés il y a un instant. Est-ce que c'est le cas quand même, avec 35% des voix au second tour, Marie Danser?
Oui, alors il ne faut pas confondre non plus l'élection présidentielle et puis les élections législatives, parce que la présidentielle, on se prononce sur une personne, un homme ou une femme, et c'est valable aussi pour Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, qui a fait le pari et de se faire parachuter lui-même à Marseille dans une circonscription qui n'est pas évidente, parce que occupé par Patrick Mennucci, et de présenter des candidats partout contre le Parti communiste. Pour le Front National, c'est un peu la même chose. On a Marine Le Pen, alors qui en plus a avoué qu'elle avait fait un débat d'entre-deux tours qui était complètement en dessous des pâquerettes. Donc elle-même est fragilisée. Et puis ensuite, les candidats Front National dans les différentes circonscriptions ne suscitent pas forcément la même adhésion personnelle que ce qu'elle peut éventuellement susciter.
Est-ce qu'on va voir dès ces élections législatives, Gaëtane Morin, ce que veut faire finalement Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est déjà en œuvre, mais est-ce que ça va être vraiment concret là dans 3 semaines, l'explosion définitive du paysage politique français, une recomposition?
On sent que c'est en gestation, en fait. Là, ce qu'on espère voir, surtout, c'est une clarification, finalement. Parce que c'est pareil, La République En Marche, qui est en train de se structurer comme un parti, finalement, l'enjeu de ces élections, c'est aussi le financement. Puisque selon son score aux législatives, le parti aura un budget alloué en fonction du nombre de suffrages d'un côté et du nombre de sièges obtenus de l'autre. C'est un enjeu majeur à la fois pour La République En Marche et pour les autres partis qui aujourd'hui concourent. Donc effectivement, on attend de voir finalement cet éclaircissement sur l'échiquier politique en espérant que le 19 juin, on y voit un peu plus clair.
Ce qui est sûr, c'est que vous parliez tout à l'heure de ces candidats, les Républicains qui n'ont n'auront pas de concurrent, La République En Marche, en phase 2. Il y a aussi l'UDI qui ne ferme pas totalement la porte, Maud Guillemin.
L'UDI et même Christian Jacob qui a bien dit qu'ils n'allaient pas être dans le blocage pendant 5 ans. Donc, en effet, entre l'UDI qui tend quand même un peu la main, entre Christian Jacob qui dit attention, on ne veut pas non plus faire un front absolument tout le temps, notamment, il a cité les questions libérales, les questions économiques où ils pouvaient se retrouver. Donc, en effet, on voit bien que cette situation, eux aussi, ils ont un peu peur de l'avenir et donc ils ne veulent pas insulter l'avenir. Mmh. Ce qui est aussi très intéressant, je trouve, c'est que on se rend bien compte que ils se demandent ce qui va se passer demain, donc ils veulent encore garder le vocabulaire d'avant. Eux, ils veulent qu'on parle de clivage gauche-droite. Pour eux, c'est très important parce que sinon, les électeurs s'affluent où ils sont. Et c'est justement ce que veut plus La République En Marche. Eux, ils veulent justement qu'on fasse sauter tout ce vocabulaire beaucoup trop vieux. Or, c'est vrai que c'est aussi sur le vocabulaire que petit à petit, il va falloir garder les électeurs. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on va voir beaucoup après les législatives.
Est-ce que Marie Dansé,
simplement pour aller dans le même sens, est-ce qu'il y aura clarification compte tenu de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y aura clarification le 18 juin au soir, puisque finalement, même si vous êtes élu sous l'étiquette PS ou l'étiquette Les Républicains, rien ne dit que ensuite, texte après texte, vous pourrez tout à fait apporter votre voix aux propositions qui seront faites par le gouvernement. Donc en fait, on risque d'être toujours dans un flou et puis dans du coup par coup. D'ailleurs, officiellement, l'objectif des Républicains, ça reste d'obtenir la majorité absolue. En privé, ils commencent à dire, bon, on espère simplement un nombre de députés le plus important possible pour peser, mais ça n'exclut pas qu'il y ait des fuites au fil de l'eau, en fait.
D'où cette volonté que peuvent avoir de nombreux électeurs qui ont voté Emmanuel Macron pour beaucoup par défaut, et pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, cette volonté de donner un coup de barre à gauche ou à droite. Ça va être un élément déterminant de ces législatives.
En tout cas, on n'est pas dans la configuration habituelle où, en général, un président est élu, et puis ensuite, on lui donne une majorité de manière assez logique, puisqu'on choisit le camp du président pour gouverner.
Surtout depuis la mise en place du quinquennat.
Voilà, là, ça n'est pas acquis.
Et d'ailleurs, il y a un élément pour attester de cela, c'est la cote de confiance. La cote de confiance aujourd'hui du président de la République et du Premier ministre est la plus basse à cette époque, en tout cas juste après une élection, est la plus basse constatée sous la Ve République. Donc c'est quand même un signe, ça veut dire que les électeurs attendent de voir quand même concrètement comment ça va se passer.
Pas d'état de grâce en tout cas pour ce gouvernement et cette présidence Macron. On pouvait s'y attendre vu le contexte pendant la campagne présidentielle. On va parler de la Suisse dans un instant. Les Suisses ont décidé de se passer progressivement, on va le voir, du nucléaire. On va en débattre dans les informés de France Info. Il est 20h40 et voici d'abord les dernières infos avec Yasmina Adila.
Les syndicats de GMS restent prudents. Bruno Le Maire a annoncé l'augmentation des commandes de ses deux principaux clients, PSA et Renault. Le ministre de l'Économie parle d'engagement qui pourrait permettre à l'entreprise de trouver un repreneur. Il faudrait savoir ce qu'il y a réellement derrière ces chiffres, réagit sur France Info un délégué de la CGT. L'équipementier automobile est menacé de fermeture, environ 277 emplois sont menacés. La France et l'Italie prêts à réformer l'Union européenne. Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni. Pour le président de la République, Bruxelles n'a pas entendu assez tôt les cris d'alerte de l'Italie sur la crise migratoire. Emmanuel Macron plaide pour une politique européenne commune pour remédier à cette crise. Donald Trump demande aux musulmans de lutter contre l'extrémisme en visite en Arabie Saoudite. Le président américain a prononcé un discours sur l'islam. Il a évoqué la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas d'une bataille entre différentes civilisations, il s'agit d'une lutte contre des criminels barbares, a déclaré le président américain. Un nouveau tir de missile de la Corée du Nord, tir de moyenne portée. Pyongyang a déjà réussi un tir d'une portée sans précédent il y a une semaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence mardi prochain. La Juventus de Turin, championne d'Italie pour la 6e année consécutive, on parle football, et une journée de la fin à 4, la Juventus de Turin a 4 points d'avance sur l'AS Roma.
France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron.
Les Suisses décident donc d'abandonner à moyen terme le nucléaire. Ils ont dit oui aujourd'hui à 58% à la loi qui interdit les nouvelles centrales, qui soutient les énergies vertes et qui réduit la consommation d'énergie. C'est le résultat d'un long processus qui avait été engagé en Suisse après la catastrophe de Fukushima. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous, voisins de la Suisse, d'après vous, Gaëtan Morin?
Je sais pas, mais en tout cas, si la question c'est est-ce que cette sortie du nucléaire doit inspirer la politique d'Emmanuel Macron, la réponse sera compliquée à donner, puisque Emmanuel Macron n'a pas fait preuve d'un discours très écologique pendant sa campagne, que par ailleurs la France s'est engagée à réduire sa part du nucléaire de, aujourd'hui je crois qu'elle est à autour de 75%, à 50% d'ici à 2025. Ça voudrait dire fermer 17 à 20 réacteurs, le parc nucléaire français en compte 58, on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc de toute façon, c'est un peu compliqué et je crois que Nicolas Hulot lui-même, dans son parcours, n'en a jamais fait une condition sine qua non. Il a mis du temps à s'emparer de cette question-là, il s'en est pas emparé assez récemment. On sait aussi que le Premier ministre a travaillé chez Areva. Ouais. Donc du coup, voilà, tout ça mis bout à bout, on peut se poser la question de dans quelle mesure ça va faire effet boule de neige en France.
Emmanuel Macron va-t-il prendre exemple? Doit-il prendre exemple sur la Suisse? Écoutez la réaction de Stéphane Lhomme du réseau Sortir du Nucléaire.
Les Suisses ont pris le train de l'histoire dans le bon sens, contrairement à la France, puisque l'électricité nucléaire, qui faisait 17% de l'électricité mondiale en 2001, ne fait plus que 9%. C'est une énergie qui est en déclin rapide et irréversible. Les pays qui sont dotés de réacteurs rencontrent désormais des problèmes insolubles, de vieillissement de ces installations, et EDF d'ailleurs est dans une situation financière inextricable. Et évidemment, des pays comme la Suisse font très bien de tourner le dos à cette énergie et de s'en sortir le plus vite possible.
Effectivement, Gaëtan Morin disait, Nicolas Hulot ne s'est exprimé que très récemment pour un passage total aux énergies renouvelables et pour une sortie du nucléaire, Maud Guillaumin.
Ah bah, il sait que de toute manière, tout ça va être très compliqué. D'ailleurs, même en Suisse, les opposants ont dit tout de suite que ça allait quand même compliquer la vie des Suisses. Pourquoi ? Parce qu'ils vont devoir baisser vraiment leur consommation. Tout à chacun va devoir faire un effort. Et puis, ils ont peur aussi que le paysage soit complètement défiguré avec les nombreuses éoliennes et les panneaux solaires. Donc ça, c'est juste pour faire la comparaison avec la Suisse. Oui, ça veut dire que Nicolas Hulot sait bien que les choses en France sont beaucoup plus complexes que ça. On le voit bien avec Fessenheim, qui reste encore et toujours la brebis galeuse dont on ne sait pas quoi faire. Alors justement, les Suisses ont légiféré. Les centrales ne fermeront pas. Au départ, ils voulaient peut-être les fermer au bout de 45 ans. Finalement, elles ne fermeront pas tant qu'elles fonctionnent bien. Alors, bon, la question se pose pour Fessenheim.
Tant que la sécurité est assurée.
Exactement. On voit bien que jusqu'à présent, Emmanuel Macron n'avait pas voulu trop se mouiller non plus sur ces questions. L'arrivée de Nicolas Hulot n'a pas toujours été bien perçue par justement tous les organismes verts et écologistes, justement parce qu'ils savent qu'ils ne se positionnent pas là-dessus, notamment.
C'est vrai qu'on a présenté l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement comme un bon signal vis-à-vis de l'écologie. Est-ce que c'est le cas, Marie Danser?
D'abord, je voudrais simplement remettre un peu en perspective les choses. Les Suisses ont une stratégie nationale, vous l'avez évoqué, depuis Fukushima. Ils se sont fixé un objectif de réduction de la part de l'atome et des étapes. Et le vote d'aujourd'hui fait partie de ces étapes. En France, on a une loi sur la transition énergétique qui date d'août 2015 et qui prévoit, alors je cite, on va passer progressivement de 75 à 50% de la production électrique totale. Donc on a 75% de nucléaire aujourd'hui, on arrivera à 50. Et on gèle la puissance actuelle nucléaire. Sauf que, en fait, EDF, qui ne le dit pas évidemment explicitement, mais qui ne conteste pas, EDF... cette puissance est maximale, c'est un plafond. L'idée est de réduire. Mais EDF considère que, bon, on a fixé ce plafond à 63 mégawatts et on va y rester. Donc là, il y a une vraie ambiguïté. Et la décision sur Fessenheim de reporter encore la fermeture de Fessenheim, ça traduit, en fait, cette nouvelle interprétation que EDF a fait de la loi sur la transition énergétique, ce qui veut dire que la France, en tout cas actuellement, ne se donne pas les moyens de franchir les différentes étapes pour arriver à une diminution au moins de la part du nucléaire, parce qu'effectivement, les écologistes et Nicolas Hulot ne disent pas que du jour au lendemain, on va se passer d'énergie nucléaire. Mais c'est important parce que les Suisses, moi je pense qu'économiquement, c'est aussi une décision intéressante. Les Suisses, du coup, vont investir dans les énergies renouvelables, dans la réduction de consommation énergétique, et tout ça, je pense que c'est un modèle économique d'avenir qui implique des efforts, mais on le fait pas du jour au lendemain, donc il faut commencer petit à petit. Et nous, on a l'impression un peu de freiner des cas de fer.
Tout ça est vrai. J'ajouterais juste que aujourd'hui, la filière nucléaire, ça représente à peu près 220 000 emplois. Donc dans une période où finalement l'emploi en France reste quand même une question compliquée et plutôt tendue, effectivement, ce chemin vers la sortie du nucléaire est compliqué à prendre.
On peut supposer que la recherche peut créer des emplois et le développement de nouvelles technologies aussi. L'Allemagne a pris alors une décision, elle, très radicale, parce qu'à la suite de Fukushima, Angela Merkel, la chancelière allemande, a dit « Nous, on arrête tout ».
Alors,
l'Allemagne n'est pas vertueuse.
Ça coûte plus cher aujourd'hui.
Elle n'est pas vertueuse parce qu'elle utilise beaucoup de centrales à charbon qui sont polluantes. Mais l'intérêt quand même est de se dire que c'est un secteur d'avenir et que peut-être la France est en train de prendre du retard. Elle a su être leader et motrice dans le nucléaire. Il y a probablement aujourd'hui d'autres domaines à explorer qui seraient en plus des gisements d'emplois potentiels énormes.
Le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est que ces emplois potentiels, ils seront effectifs dans plusieurs années, alors qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec la réforme du Code du travail. Emmanuel Macron veut des résultats rapides en termes d'emplois, Maud Guillaume.
Et puis oui, je suis d'accord avec vous par rapport aux emplois que représente le nucléaire en France. C'est très difficile de se dire qu'on tire un trait là-dessus. La différence de la Suisse, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux, que leur situation économique n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc forcément, ils peuvent en effet prendre le risque et se dire que justement, ils misent sur autre chose. Alors, je reviens sur ce que vous disiez. C'est vrai que c'est un pari à prendre. Emmanuel Macron en a pris plusieurs. Est-ce qu'il ira aussi vers celui-là? Je pense encore aujourd'hui que malheureusement, et c'est bien parce que c'est pour ça que j'insistais sur l'effort qu'on aurait tous à faire. Les Suisses sont prêts à le faire. Je ne sais pas si les Français aujourd'hui, eh bien l'environnement, tout ça, ça les importe, ça leur importe tant que ça. Si le nucléaire, c'est si vilain que ça. Je pense que il y a encore une vision assez positive, en effet, du nucléaire. Enfin, il y a quand même vraiment une mentalité qui n'a rien à voir avec nos amis suisses.
D'ailleurs, l'écologie n'a pas été un thème majeur de la campagne présidentielle. Il n'a même pas été abordé lors du débat du second tour. Marie Dancer.
Emmanuel Macron s'en était peu saisi, ce qui est étonnant parce qu'il s'est beaucoup saisi du numérique en disant voilà une révolution qui impacte nos économies. Sur finalement l'écologie, il a été peu présent. Du coup, Nicolas Hulot, cette prise entre guillemets de Nicolas Hulot est intéressante parce que il verdit un peu son orientation. Mais effectivement, l'écologie n'était pas le gros de son programme.
Et Édouard Philippe n'avait pas voté la loi sur la transition énergétique. Donc c'est quand même important. C'est quand même la figure le numéro un du gouvernement. Je trouve que ça donne quand même une sorte de couleur qui n'est pas très verte par rapport à ce gouvernement. On va voir ce que Nicolas Hulot peut apporter à côté.
Mais à l'époque de la COP21, dans les suites de la COP21, ça reste étonnant. Je pense que c'est un enjeu majeur pour les économies et pour les sociétés.
Nous verrons en tout cas si cette transition énergétique est un enjeu majeur, effectivement, du quinquennat qui commence. Restez avec nous dans les informés. On va parler dans un instant du discours de Donald Trump sur l'islam. Il est 20h50. On fait le point sur l'info avec Yasmina Adila.
Et justement, Donald Trump, porteur d'un message d'amitié, d'espoir et d'amour, ce sont ses mots. En déplacement en Arabie Saoudite, le président américain a prononcé un discours sur l'islam. Il demande aux pays musulmans de s'unir contre le terrorisme. Juste avant, c'est le roi d'Arabie Saoudite qui a lancé une attaque contre l'Iran. Le roi Salman qualifie Téhéran de fer de lance du terrorisme mondial. L'Iran, où les modérés remportent le pouvoir à Téhéran, ils viennent de gagner les élections municipales. La capitale était dirigée par des conservateurs depuis 14 ans. Vendredi, c'est le président sortant et modéré Hassan Rouhani qui a été réélu avec 57% des voix dès le premier tour. La France et l'Italie veulent réformer l'Union européenne. C'est le message qu'a voulu faire passer Emmanuel Macron. Le président de la République a reçu à l'Élysée le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni. D'après Emmanuel Macron, Bruxelles n'a pas entendu assez tôt les cris d'alerte de l'Italie sur la crise migratoire. Bruno Le Maire annonce des engagements pour GMES. Le ministre de l'Économie parle d'un accord entre l'équipementier automobile et ses deux principaux clients, PSA et Renault. L'entreprise de la souterraine dans la Creuse est menacée de liquidation judiciaire. Les deux constructeurs automobiles s'engageraient à augmenter leurs commandes. Pour PSA, elles passeront de 10 à 12 millions d'euros et de 5 à 10 millions pour Renault. Il faudrait savoir ce qu'il y a réellement derrière ces chiffres, réagit sur France Info un délégué CGT. Pour lui, les constructeurs avaient déjà annoncé des augmentations de commandes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Simon Le Baron.
Écoutons un extrait du discours de Donald Trump cet après-midi à Riyad, le président américain en Arabie Saoudite, pour son premier déplacement à l'étranger. Écoutez, il s'en est pris à l'Iran, qu'il accuse de financer, d'armer et d'entraîner les terroristes.
En attendant que le régime iranien montre sa volonté d'être un partenaire dans la paix, toutes les nations ayant une conscience doivent travailler ensemble pour l'isoler, le nier. Le financement du terrorisme n'y peut rien. Et prier pour le jour où le peuple iranien aura le gouvernement juste et vertueux qu'il mérite si amplement.
Donald Trump qui appelle à isoler l'Iran au niveau international. Est-ce que c'est dangereux de dire cela aujourd'hui, alors que les Iraniens ont affirmé hier leur désir de poursuivre la politique d'ouverture en réalisant leur président Hassan Rouhani?
Je pense que c'est vraiment pour bien marquer sa différence avec Barack Obama. Barack Obama avait vraiment essayé de sortir de cette situation très très tendue avec l'Iran. Je rentre pas dans le détail, mais donc il y avait vraiment eu un travail avec l'Iran. Et là, d'un seul coup, en fermant la porte, mais c'est encore un marchand de tapis. Là, d'un seul coup, il est en Arabie Saoudite. Le but, c'est de leur faire plaisir. Ils viennent de signer des très gros contrats.
340 milliards d'euros. En convertissant en euros, ça fait 340 milliards d'euros, dont 100 milliards d'armement.
Donc, ils ont été très gentils, en effet. En plus, ils lui ont fait venir un chanteur de country. Donc, vraiment, ils ont été très, très aimables. Donc, il est vraiment comme ça. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, il fallait leur montrer à l'Arabie Saoudite, qu'il était vraiment prêt à avancer avec eux. Et donc, avancer avec eux, c'est leur faire plaisir et donc taper sur leur ennemi, l'Iran. Eh bien, ils pourraient faire exactement le contraire dans une autre situation. Ça, c'est le problème de Donald Trump.
Marie Dancer.
Alors, c'est effectivement un recentrage, puisque Barack Obama avait eu cette rupture en se dirigeant, en faisant une ouverture vers l'Iran. L'Iran qui est en voie de normalisation, K1KA, on le voit avec l'élection, la victoire de Rouhani à l'élection présidentielle, donc le camp progressiste qui se conforte finalement. Et puis, badaboum, voilà que effectivement Donald Trump, lui, se tourne à nouveau vers l'Arabie Saoudite, vers le monde sunnite, contre les chiites, en appelant clairement à isoler l'Iran, ce qui en termes de politique internationale, effectivement, c'est vraiment une politique d'exclusion. Et alors, la chose intéressante quand même, peut-être un petit point d'apaisement dans son discours, c'est qu'il a appelé à lutter contre l'extrémisme, mais pas contre le terrorisme islamique radical. Alors,
il a changé son vocabulaire.
Le vocabulaire, et il a arrêté, il a bien dit, il ne s'agit pas de parler d'une guerre de civilisation, mais d'une guerre du bien contre le mal. Ce qui est un petit progrès, parce qu'on sort de ce côté guerre de religion et choc des civilisations, choc des cultures.
Gaëtan Morin.
Alors tout ça est vrai, mais je pense quand même qu'il faut aussi en faire une autre lecture. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, Donald Trump, aux États-Unis, est empêtré dans une affaire politico-judiciaire énorme qui pourrait, à un moment donné, l'amener à une procédure de destitution. Longtemps, cette question a semblé totalement irréelle. Aujourd'hui, elle semble un peu plus concrète. Ce qui est sûr, c'est que tous les médias, tous les jours, sortent de nouvelles informations. Le directeur du FBI, qui l'a limogé il y a 2 ou 3 semaines, en pensant d'ailleurs s'acheter une forme de paix, en fait, pas de bol pour lui. C'est exactement l'inverse qui se produit. Il va, mercredi prochain, témoigner devant le Sénat. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une espèce de cabale, il est aux abois. Et cette tournée à l'étranger est finalement assez bienvenue. Est-ce que dans son discours, il ne faut pas aussi y voir une manière de, finalement, de jouer l'apaisement, de donner des gages, de montrer qu'il n'est pas juste ce président qu'on a connu candidat à tirer à boulet rouge sur les musulmans, et sa première mesure, ça a quand même été
le l'interdiction pour les ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer aux États-Unis.
Donc là, il essaye de s'adoucir, mais enfin, on peut quand même y voir une forme de calcul aussi. Donc voilà, donc tout ça pose question.
Il ne sera pas le premier président à tenter de redorer son blason sur la scène internationale quand il est en difficulté au plan intérieur, Maud Guillaume.
Et c'est sûr, mais là, c'est vrai que quand on le voit, vous avez vu le je ne sais pas si vous avez vu le passage avec Al-Sisi, donc
le président égyptien,
où on a vraiment l'impression qu'ils sont très amis. D'ailleurs, il promet d'y aller également prochainement. On voit vraiment d'un seul coup que c'est d'un seul coup Trump, l'homme président à l'international. Or, rappelez-vous, il disait même pendant sa campagne que l'international ne l'intéressait pas. Ce qui comptait, c'était les Américains. Et en effet, comme vous le soulignez, au moment où ça va pas, d'un seul coup, l'international a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages.
Maud Guillaumin, on vous retrouve sur atlantico.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les Informés de France Info ce soir. Gaëtan Morin, on vous lit dans le Parisien Magazine, et Marie Danser dans le journal La Croix. Merci à toutes d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Les Informés de France Info reviennent demain à la même heure, à 20h, avec Jean-Mathieu Pernin sur France Info, radio et télé sur le canal 27 de la TNT. Bonne soirée à tous.